Merci d'écouter Europe 1. On vous fait vivre cette grande soirée football, le choc France-États-Unis au Café des Deux Stades. On vous retrouve, Mathieu Béliard.
Bien sûr, mais c'est une émission spéciale, mais on est vendredi soir, donc il y a le débat des grandes voix, évidemment. Autour de la table avec moi, Michel Cotin. Bonsoir, Michel.
Bonsoir.
Ça va, Michel ?
Ça va très
bien. Robert Namias est avec nous aussi. Bonsoir,
Robert. Bonsoir, Mathieu.
J'ai oublié de préciser, Michel Cotin, ancienne gardienne de but.
Oui.
Non, mais enfin, je vous raconterai comment, oui.
Et Charles, alors, pardon, il y a un homme qui, quand on est autour du Parc des Princes, se fait appeler Monsieur le Président. C'est Charles Villeneuve.
C'est exactement comment on m'appelait il y a quelques secondes. J'ai fait le tour de tous les gens qui sont, qui sont là. Il y a beaucoup d'Américains. Je suis assez étonné des groupes d'Américains avec leur maillot rouge, le logo USA, les trois étoiles, les trois titres de champion du monde 91, 99 et 2015 de l'équipe américaine. Et c'est assez sympa, c'est assez convivial.
Ils t'ont reconnu, les Américains ?
Non, c'est les Français, j'avoue. Il y en a pas mal du PSG, d'ailleurs. Il y a pas mal de supporters du PSG. Et je les félicite avec des maillots de l'équipe de France, où il y a surtout Varane et Mbappé. Mais je n'ai pas distingué les noms des Américaines, mais surtout Alex Morgan, qui est la star, l'avant-centre, qui ne porte pas le numéro 9, mais le numéro 13, je le... signale aux futures téléspectatrices ou téléspectateurs.
On va en parler ce soir, tous les téléspectateurs. On a vu que le public de football suivait cette Coupe du Monde en millions de téléspectateurs et ce sera notamment une des parties du débat avec les grandes voix ce soir, le développement du foot féminin, cet engouement. Quels sont les enjeux ? Parce que j'ai aussi envie qu'on parle de football. On va parler de développement du sport féminin. Il y a quelque chose du féminisme et de l'évolution sociétale dans tout ça. Mais on va aussi parler de football et des enjeux sur le terrain ce soir parce que c'est un quart de finale de Coupe du Monde. À 19h22, j'accueille Benjamin Muller.
Bonsoir Mathieu, bonsoir les grandes voix. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a aussi beaucoup de supportrices ?
Oui, c'est vrai.
C'est vrai. Voilà, c'est bien aussi. Oui. Quand on voit le match du PSG, c'est un peu moins le cas. ça surprend.
Ça évolue.
Ça évolue.
Mais parce que là, on ne s'est pas vu depuis deux heures, Benjamin. Il y avait vraiment beaucoup de supportrices ?
Ah, il y en a beaucoup, ouais.
Benjamin, comme chaque jour, on voit avec vous comment les médias traitent un sujet de l'actualité.
Voilà.
Aujourd'hui, bien sûr, on parle du match de ce soir.
Bah, évidemment, et bien sûr, à la télé et la radio aujourd'hui, les journalistes et les présentateurs étaient avant tout des supporters.
Et pour les Bleus, on y croit.
Eh oui, Jean-Pierre Pernaut est à fond, Pascal Praud aussi.
Allez les Bleus!
Oui les gars, on les encourage et si on est écouté par des Américains, on leur met la pression.
Et on confirme, France is a great team.
Voilà Isabelle Millet, on va les exploser ce soir s'ils nous entendent. Même les invités politiques donnent tout pour les Bleus. Nadine Morano au hasard.
Bravo aux Bleus, ES à la fin. Bravo, continuez, on compte sur vous.
Oh, ça doit les toucher en plein cœur nos joueuses. Barbara Pompili sur TMC.
Moi ce que j'aime bien c'est que c'est des joueuses qui font pas, justement qui font pas des fillettes.
Voilà, c'est des bonhommes nos joueuses, on les adore et j'adore la relance du journaliste juste après.
Quelle est votre joueuse préférée ?
Oh, je les connais pas, je connais pas leur
nom. Ouais bon, il n'y a pas besoin non plus de toutes les connaître pour les encourager. Les fans français sont eux aussi bien sûr au taquet comme ici sur TF1.
Allez les Bleus, allez, on est les meilleurs !
On est les meilleurs comme c'est mignon. Un commentaire Jean-Pierre ?
Eh oui, on est les meilleurs, mais les Américaines sont les championnes du monde en titre.
Ouais, le gars, il casse l'ambiance, c'est tout du Pernaut. Ça, du coup, j'ai éteint TF1, j'ai mis BFM. Oui, on apprend qu'on va gagner facile.
Mais elles ont montré aussi des failles, et notamment face aux Espagnols. Ces failles ont été étudiées par le staff français. Il y a en tout cas des raisons d'y croire.
Mais bien sûr que la France est favorite, hein, France Info ?
Oui, c'est tout simplement la meilleure équipe du monde qui a souvent éliminé la France des grandes compétitions.
Ah, je déteste ces journalistes qui disent ça. Qu'est-ce qu'il y a besoin de faire son malin ? Alors, notre vrai sujet à 19h24, c'est de savoir qui va remplacer ça.
Ramenez la coupe à la maison.
Voilà, VG Dream, c'est bien, mais ça c'était l'an dernier, pour les garçons c'est dépassé. J'ai lu donc ce matin dans l'équipe un article qui nous apprend que deux chansons sont pour le moment bien placées pour décrocher ce titre officieux d'hymne de l'équipe de France. Voici les extraits. Le premier s'appelle « On est ensemble » signé Chérine. Michel, vous aimez bien ? Pas mal ?
Moyen.
Moyen, on est d'accord, parce que le deuxième c'est beaucoup mieux, ça s'appelle « Sélection féminine » signé juste Chani. Voilà. Là, il y a un côté, je peux vous dire que les supporters américains, là...
On est d'accord, mais voilà, Michel.
Ah là, bien sûr. Regardez comme ils font moins leur malin, les supporters américains, entre nous, là.
C'est juste Chani qui nous a fait l'amabilité d'être dans ce studio éphémère il y a quelques minutes. Footballeuse aussi, elle est rappeuse, mais elle est aussi footballeuse à la CP15. Elle joue dans le 15e arrondissement de Paris. Merci, Benjamin Muller. Merci beaucoup, bon week-end, bon match.
Bon match à vous. Bon match.
Vous aviez donné un pronostic tout à l'heure, vous ?
Moi, je le sens très bien. Ouais. Vous voulez que je vous dise, je sens le 3-2. au bout des prolongations, un truc de dingue qui fait 17 millions de téléspectateurs. On a tout ça et on en reparle lundi, d'accord?
On l'a enregistré, hein, Jean qui reste en régie, Jean Lénaff, le réalisateur de ce grand journal du soir. On va bien garder l'extrait du pronostic de Benjamin Muller pour en reparler lundi. Merci beaucoup, il est 19h26, vous êtes sur Europe 1, une émission spéciale ici aux abords du Parc des Princes. Nous sommes installés au café des deux stades. Les supporters du PSG connaissent ce café, évidemment, quand ils viennent au Parc des Princes. Ça leur arrive de s'arrêter de ce côté, entre le Parc des Princes et le stade Jean Bouin, bien sûr, pour les amateurs de rugby. Nous sommes ici aux abords du Parc des Princes, mais le service des sports est mobilisé tout autour, à l'intérieur, bien sûr. Soirée spéciale à partir de 20h avec Lionel Rousseau. Quart de finale de Coupe du Monde France-États-Unis à partir de 21h. À suivre le débat des grandes voix, ici, au Parc des Princes, sur Europe 1.
Et vous allez entendre la clameur monter comme la pression. Mathieu Béliard et les grandes voix d'Europe 1 tout près du Parc des Princes, au café des deux stades, à 1h30 maintenant du coup d'envoi France-États-Unis.
Avec le stress, Ombline, qu'il peut y avoir à 1h30 du coup d'envoi d'un quart de finale de Coupe du Monde. La pression qui monte, la température aussi. Et là, je ne parle pas que de la canicule que nous connaissons depuis quelques jours. Vous entendez derrière nos voix, évidemment, les supporters qui sont là. Pas que des supporters français, Charles Villeneuve, on l'a souligné tout à l'heure. Beaucoup d'Américains.
Beaucoup de groupes américains, on les distingue évidemment très facilement. Ils sont tous en maillot rouge, rouge sang, avec le logo USA, évidemment, qui représente le drapeau américain et les trois étoiles, c'est-à-dire les trois titres de championne du monde de l'équipe américaine, ceux de 91, 99 et 2015.
Parce qu'elles sont tenantes du titre, c'est vrai, mais surtout elles l'ont gagné trois fois cette Coupe du Monde. On l'a beaucoup dit, c'est la meilleure équipe au monde. Le sentiment, tiens, Robert Namias, on ne s'est pas parlé de foot féminin encore depuis le début de cette Coupe du Monde, si un peu, mais il y a de l'engouement, il y a de l'enthousiasme. Ça fait quoi d'arriver au bord d'un Parc des Princes un soir de match de Coupe du Monde? On a une belle ambiance, j'ai pas envie de dire comme les garçons, mais il y a aucune raison de... Les supporters sont là aussi, c'est ça que je veux dire.
Oui, mais il y a un engouement qui est quand même assez surprenant d'ailleurs, mais qui est un engouement depuis le début de la Coupe. Et honnêtement, il faut bien connaître que personne ne l'avait imaginé à cette hauteur-là. Nous, hommes de radio ou de télévision, on regarde évidemment les audiences, on les a données, mais les matchs de l'équipe de France ont fait entre 8, 9, 10 millions de téléspectateurs. Et c'est absolument considérable. Et il faut savoir d'ailleurs que les matchs des équipes étrangères, même lorsqu'il n'y a pas l'équipe de France, ça fonctionne très très bien. Donc cet engouement, il faut essayer de le comprendre. Moi je crois qu'effectivement, il se situe dans un contexte quand même, qui est un contexte d'un combat féministe, incontestablement. On a très longtemps considéré que le foot c'était un truc de mec, quoi. Encore qu'on s'aperçoit, et notamment à la faveur des Coupes du Monde de l'équipe de France depuis 1998, on s'aperçoit qu'il y a un public féminin qui est beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense. Moi, je peux vous dire, j'ai une petite fille qui a 16 ans et demi, elle connaît le foot, mais comme personne, hein, mais vraiment, mais ah oui, mais absolument. Et donc, c'est vrai que de toute façon, contrairement à ce qu'on dit, même, j'entendais tout à l'heure Charles à propos des spectateurs du PSG, du Parc, etc., en fait, il y a un public féminin qui vient et qui est venu après 98 et qui ne cesse de progresser. Et qui, là, évidemment, a pris une importance considérable.
Michel Cotta.
Alors, sur qu'il y ait une vision féministe de sport, j'allais dire heureusement. Mais c'est vrai, je me rappelle par exemple, est-ce que vous vous rappelez que le handball féminin, les Françaises ont été championnes du monde. Personne à la télévision, aucune télévision n'avait souhaité les avoir. Et au dernier moment, prévenu par un rédacteur sportif, la directrice de France 2 que j'étais a dit « on arrête tout et on prend le match ». Et il y a eu immédiatement énormément de monde. Il y a eu 8 millions, c'était un peu moins. Et c'est le handball aussi. Et à partir de là, ça a déclenché chez les jeunes filles une passion du handball. Et au fond, c'est ce qui s'est passé c'est ce qui se passe pour le football. D'abord, il y avait beaucoup de clubs de filles amateurs. On a oublié, on ne les regardait pas, parce que les hommes ne regardent pas les jeunes filles qui font du... Alors, à l'exception de Charles Villeneuve, évidemment. Mais les hommes ne regardent pas les petites filles, les jeunes filles qui s'entraînent, parce que ça existe, ça aussi. Et ça existe dans toutes les villes de France. Et au fond, on ne leur rendait pas hommage. Ben là, c'est une façon de leur rendre hommage. Alors, ça s'inscrit sûrement dans la lutte féminine, la femme est l'égale des hommes, mais c'est pas tellement l'égal, là, je trouve. Parce que quand on les voit jouer, on voit quand même qu'il y a une vraie différence. Moi, je trouve ça beaucoup plus harmonieux, pardon de te dire ça. Je trouve ça beaucoup moins sauvage. Les gens s'attaquent moins quand ils font des bourdes. On voit très bien qu'elles s'excusent immédiatement. Il y a un côté élégant. Il y a un côté élégant en ce sport.
Alors, juste avant de parler de ce soir, j'étais avec Frédéric Jocinet il y a quelques minutes dans cette émission spéciale, qui est directrice du football féminin à la Fédération française de foot. Et elle me donnait une stat sur ça, parce que je lui demandais, est-ce que c'est vrai? Parce qu'on entend partout, les filles, elles pleurnichent moins, elles viennent moins râler auprès de l'arbitre, elles se roulent moins par terre. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce qu'on le constate? Elle m'a dit, je ne peux pas vous donner de réponse oui ou non à cette question. En revanche, j'ai une donnée, et ce qu'elle disait à l'antenne tout à l'heure, j'ai une donnée importante, c'est que le temps de jeu effectif est plus important chez les filles. Il y a moins d'arrêts de jeu. Donc on peut en déduire qu'il y a moins de roulades par terre, moins de contestations,
Je vous l'avais dit déjà il y a deux semaines. Ce qui marque, si vous voulez, par rapport au football masculin, c'est qu'il y a plus d'authenticité. Il y a non seulement moins de roulades à l'infini façon Neymar, qui est caricatural sur ce plan-là, mais il y a aussi moins d'insultes, il y a moins de critiques de l'arbitre. Et par rapport aux hommes, il y a moins de vocifération.
De discipline
oui,
aussi.
Non, mais et il y a surtout, et d'ailleurs dans le public justement, je voudrais revenir sur le public qui nous entoure, c'est que vous avez énormément d'adolescentes. Ça, c'est très nouveau. Il y a beaucoup de femmes aussi. Il y a beaucoup évidemment de garçons, mais la majorité ce sont des femmes, ceux qui nous entourent là.
Oui.
Il y a un spectacle aussi parce qu'on entend un peu les tambours, vraisemblablement vous les entendez enfin sur le fond là de nos discussions. Mais ce qui est important ce soir pour le football féminin, c'est que nous sommes à un tournant. Et pour que la vague, si vous voulez, que décrivait tout à l'heure, notamment au niveau des téléspectateurs, des téléspectatrices, que Robert Namias soulignait à juste raison, c'est que ça peut faire de cette vague une déferlante. Parce que ce soir, en quoi c'est un tournant, et c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que les Américaines sont au football ce que les All Blacks sont au rugby. Elles sont quasiment invincibles. Or, la seule défaite qu'elles aient subie en match amical, en rodage, c'est vrai, en janvier dernier, c'est l'équipe de France qui leur a infligé. C'est pour ça qu'il y a quand même un espoir qui est mince. Parce qu'il faut le reconnaître que nous allons avoir une équipe, on parlait tout à l'heure de la brutalité, où la condition physique prime avant tout. Elles sont, et ce n'est pas exagéré de le dire, c'est même des Américains qui vous le disent, elles sont entraînées physiquement comme les Navy Seals. C'est-à-dire les commandos marines, quasiment.
32 degrés au coup d'envoi aussi.
Et vous allez voir, le choc est différent. Et les chocs sont différents.
Michel Cotin.
Il y a aussi... On est d'accord sur le fait qu'il y a effectivement une évolution féminine, féministe, comme vous voulez. Mais ce qui est très important aussi dans ce match, c'est qu'effectivement, le football des filles, c'est essentiellement américain. C'est pas le football des garçons, vous savez, avec les grandes...
Déguisement avec l'armure, le football américain.
Alors, le football tel qu'il est pratiqué en France,
le soccer.
Donc, elle pratique ça depuis plus longtemps. Et donc, de ce point de vue-là, il y a effectivement une fascination pour les États-Unis qui ne se dit pas, mais qu'on ressent à l'idée d'affronter des Américaines et de les affronter pour un match décisif, parce que ça va dire où on s'arrête ou on continue. Hein.
C'est important ce que dit Michel, en ce sens où l'Amérique constitue un réservoir de footballeuses considérable. Ça vient de 1972, au moment où le football était interdit en Angleterre, football féminin, et en Allemagne. En France, il n'existait pas. Et il y a un amendement sur une loi qui obligeait les universités à subventionner et créer des équipes féminines de football.
En fait, c'est la loi Title IX qui a obligé les universités à donner des bourses autant aux garçons qu'aux filles. Et donc, d'un seul coup, ils avaient leurs équipes de foot américain de garçons, leurs équipes de basket, leurs équipes de baseball, et ils ne savaient pas comment équilibrer, et ce n'est pas avec des joueuses de tennis que vous auriez le même nombre de joueuses. Alors, ils ont découvert que dans le foot, vous pouviez avoir un collectif de 25-30 personnes, 25-30 boursières, et ça permettait d'être dans les clous de la loi. Ça a considérablement développé le foot aux États-Unis, et ça a fait que les papas, les mamans qui avaient une petite fille de 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, se sont dit, je vais la mettre au soccer parce qu'elle aurait une bourse arrivée à 18 ans.
Et c'est le cas maintenant.
Robert Namias.
Il faut donner un chiffre. Il y a, j'ai vu ce chiffre tout à l'heure, 1 700 000 adhérentes à un club de football féminin, la plupart du temps des jeunes filles, des très jeunes femmes. 1 700 000 aux États-Unis contre à peine plus de 100 et quelques mille.
180 000,
180 000 en France.
Il y a 3 400 000 joueuses de football dans le monde et la moitié, 1 700 000, sont aux États-Unis.
Donc on peut imaginer qu'effectivement, après cette Coupe du Monde, qui en plus a lieu en France, qui évidemment lui donne une importance considérable pour ce qui concerne le football français, on peut imaginer qu'il va y avoir un engouement et une demande assez massive dans les clubs des jeunes filles pour jouer au foot.
Ça commence.
Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément les équipements. Moi, j'entendais hier la ministre des Sports qui disait c'est ça. Le problème, c'est qu'il n'est pas sûr que dans les petites villes, les villes moyennes, etc., il y ait suffisamment d'équipements sportifs pour accueillir des équipes structurées avec des entraîneurs et qu'il y ait une demande qui ne soit pas satisfaite et que le soufflet retombe parce que finalement, les infrastructures ne pourront pas suivre.
On va en parler justement, ça contribue cette question du développement. Alors la Fédération française de football fait beaucoup. On va revenir dans un instant avec l'idée quand même qu'il y a trois hommes qu'il faut saluer dans le développement de ce foot féminin.
Il y a un quatrième, on va voir.
Je vous laisse faire vos pronostics quelques instants. On revient tout de suite sur cette très belle émission spéciale en direct du Parc des Princes sur Europe 1. Il est 19h38.
Votre grand journal du soir tout près du Parc des Princes avec Mathieu Belliard et les grandes voix d'Europe 1, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Robert Namias.
Mes chères grandes voix, on entend les supporters derrière nous, les tambours se sont calmés quelques secondes, n'en pas douter, ça va redémarrer. Nous sommes à 1h20 du coup d'envoi d'un quart de finale de Coupe du Monde dans lequel la France est qualifiée. Alors on se réjouit, et puis c'est France-États-Unis, alors on s'inquiète un petit peu. Et en même temps, on s'est dit que si on gagne ce match-là, on peut aller vraiment jusqu'au bout. D'abord, développement du foot féminin en France. Charles Villeneuve, nous le disions, moi je disais 3 hommes qui ont compté, vous disiez 4. Michel Cotta, vous mettez une pièce sur Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais.
Le président de l'Olympique Lyonnais en premier. Le premier est.
Non, mais le pionnier, c'est Louis-Nicolas.
Louis-Nicolas, voilà.
D'ailleurs, il y a deux joueuses de Montpellier dans l'équipe de France.
Qui lui rendent régulièrement hommage.
Il y a un joueur de l'Olympique Lyonnais, il y a une joueuse de Dijon et il y a deux joueuses parisiennes. PSG et PFC.
Alors, pardon, je fais ma petite virgule de féministe. j'ai bien connu à l'intérieur de la Ligue les différents présidents. Ben, je peux vous dire que quand on les voit, on se dit que naturellement, ils ne pensent pas forcément à faire des femmes des footballeuses. Mais justement, je trouve ça formidable qu'il y ait ces trois personnes qui aient osé défier tous leurs confrères. Le président de Montpellier a osé faire rire des tas d'autres présidents lorsqu'il s'est accroché comme ça.
Loulou Nicolin, bien sûr, défunt Loulou Nicolin, président historique de Montpellier Héros, Jean-Michel Aulas. Noël Le Graët.
Et puis le Paris Saint-Germain aujourd'hui qui a la deuxième équipe puisque l'hégémonie lyonnaise est légèrement éraflée de plus en plus par l'équipe du Paris Saint-Germain qui a évidemment beaucoup de moyens.
Robert Namias, aujourd'hui on a ce foot féminin. Alors non mais attendez, c'est important, je voudrais revenir. Alors vous disiez il y a deux Montpellier-Rennes, c'est Valérie Gauvin et alors j'ai un doute si c'est Marion ou Manon Torrent qui est latérale droite qui vient de Montpellier. Vous pourrez les suivre ce soir pendant le match. Beaucoup de Lyonnaises, vous avez insisté sur ce point, 6 Lyonnaises dans le 11 titulaire, dans le 11 type de l'équipe de
toute
France.
Toute la structure défensive est lyonnaise à l'exception de Torrent, c'est-à-dire ouais. L'arrière droit. La Gaule, Boadi, et puis surtout le Boc et Wendy Renard, qui est l'une des quatre joueuses clés. Puisque pour moi, si vous voulez, l'une des autres, qui n'est pas souvent citée dans la presse, et je le regrette, et qui est pour moi certainement l'une des joueuses les plus techniques de l'équipe de France, c'est Amel Majri. C'est l'arrière gauche, c'est elle qui a déposé ce coup franc exceptionnel sur le pied gauche de Amandine Henry qui a réussi donc à battre le Brésil.
Ceci étant, ce coup de pied était incroyable. Je veux dire, là, quand on parle de technicité quand même, c'est sûrement les Américaines sont très techniques, mais moi j'ai trouvé en gros ces équipes de l'équipe de France et hier l'équipe d'Angleterre extraordinairement au point technique. Quoi. Il y a eu vraiment des buts incroyables. Oui, c'est intéressant de voir que alors il y a le physique des Américaines et il y a peut-être la technique des Français. On va voir des Françaises, on va voir. Oui,
Robert Namias.
Il faudra voir. Moi, je connais pas les infrastructures lyonnaises, par exemple, mais ce qu'on disait tout à l'heure, à mon avis, il y a un rapport assez étroit entre l'offre qui est faite y a quelques villes qui avaient déjà depuis longtemps imaginé qu'on pouvait offrir vraiment une place importante au football féminin. Ça n'a pas été le cas de toutes les villes, bien au contraire. Il y a quand même, et c'est là que les choses sont en train de changer et que ce qui se passe en ce moment va vraiment profondément changer les choses. Il y a toujours eu, dans tous les sports, mais en particulier, regardez le tennis, regardez alors le foot bien évidemment, mais même le handball, il y a toujours eu, on a toujours considéré que le sport féminin était quand même, non pas de seconde zone, mais numéro 2, qu'il n'était pas aussi puissant que le sport masculin. Or, moi je trouve, à la fois pour le football, quand on regarde les équipes jouer depuis le début de la Coupe, il y a une fluidité, il y a un savoir-faire, une technique qui vaut largement celle des hommes. Quand on regarde les championnats de tennis, quels qu'ils soient, honnêtement, certes, il y a moins de puissance dans le jeu des femmes qu'il y en a dans le jeu des hommes, mais très souvent, le jeu des femmes est plus élégant, il est plus agréable même, et il est parfois plus difficile que le jeu des hommes. Là, c'est une affaire après de puissance physique, de rapport physique, etc. Donc, je crois que vraiment, ce qui se passe en ce moment va hisser le sport féminin, et pas seulement dans le foot, à un niveau qui, en France, n'a jamais été vraiment très, très bien considéré.
Mais alors, c'est allé très vite. Hein. Je trouve que finalement, cette histoire est allée très vite. Je me rappelle très bien, et vous vous rappelez tous, quand on était à la télé, on disait, c'est formidable, le football, mais évidemment, les femmes ne sont pas là. Et je me rappelle avoir eu des tas de conversations.
En termes d'audience,
on disait, les femmes ne sont pas là. Comment peut-on attirer les femmes ? Et on citait l'Amérique du Sud, dans lequel, au contraire, les femmes étaient des passionnées du football. Et maintenant, au fond, ça, c'était, je veux dire, en 98, oui, mettons, 98-2000. Et bien, finalement, 20 ans plus tard, ça y est. Alors, il reste la question qu'on ne pose pas quand on ne soulève pas, quand on est la question de l'argent, naturellement.
Posons-la, allons-y.
Alors, c'est vrai que, pour le moment, les footballeuses sont moins payées que les footballeurs, mais rien ne dit qu'elles ne le seront pas dans quelques temps. Et puis aussi, on peut se dire que le fric pervertit un peu le football. Et que par conséquent, mesure où elles en ont moins, c'est peut-être mieux.
Moi, je nuancerais. C'est-à-dire que là, on va très vite en pensant que sur le plan financier, ça va monter en puissance et égaler, si vous voulez, les sommes parfois considérables des cracks du football européen ou du football mondial. Moi, je ne vois pas beaucoup dans les gradins à l'heure actuelle, beaucoup d'agents. Ça, c'est un signe. Les agents, ceux qui connaissent, si vous voulez, quand tous les circuits, notamment pour assurer les transferts, etc., ne sont pas
encore
actifs.
Il n'y a pas de mercato, quoi. Il n'y a pas de mercato ouvert.
Ils
ne
sont pas encore. Il commence à y avoir un petit mercato.
Amandine Harris, je suppose.
Bon. Les mieux payés, de toute façon, sont les Américaines. C'est Alec Morgan, la numéro 13, qui, elle, gagne plus de 2 600 000 euros par an. C'est déjà, si vous voulez, une montée en puissance indéniable. Bon, les Françaises, il y a des Françaises aussi qui gagnent très bien leur vie au football. Amandine Henry. Avant, il y avait Laure Boulot, qui est d'ailleurs l'une des chroniqueuses sur Canal+, qui est souvent le dimanche soir. Et elle aussi gagnait assez bien sa vie. Bon, ça vient, ça va venir, certainement. Mais pour l'instant, si vous voulez, on n'est pas encore... Il ne faut pas oublier, tout à l'heure, tu parlais des villes ou des gens qui, finalement, n'ont pas fait d'efforts considérables. Il faut savoir que le club le plus puissant d'Europe, qui a le plus gros budget, le Real de Madrid, n'avait pas d'équipe féminine jusqu'à avant-hier. Ils ont acheté une équipe féminine dans la campagne madrilène et finalement, ils vont avoir Florentino Pérez enfin a décidé de créer une équipe de foot. Je suis resté stupéfait d'ailleurs parce que j'imaginais quand même le Barça à une équipe puisque en finale de la Champions League, il faut savoir que les championnes d'Europe, ce sont les Lyonnaises.
Oui, et multiples championnes d'Europe.
Multiples championnes d'Europe. Elles sont au football européen, ce que les Américaines sont au football mondial féminin.
Et pour en revenir à l'argent, il y a un tel gap aujourd'hui, c'est même pas un gap, c'est je sais pas quoi, un océan entre ce que gagnent les garçons et ce que gagnent les filles, que le progrès va être incontestable. Et vous savez, ce qui va faire qu'à un moment donné, elles gagneront quand même un peu plus d'argent, peut-être pas les sommes des hommes, mais un peu plus d'argent, eh bien, c'est la télévision. La loi du marché, on la connaît.
À partir du moment
où une chaîne de télévision fait 10 millions d'audience, elle achète. Et elle achète les matchs.
Et elle vend la publicité aussi.
Et à partir du moment où elle achète les matchs, Bah, il faut payer les joueurs, parce que c'est quand même les joueurs qui font les matchs. C'est quand même, depuis 20 ans, le cercle. Alors, je ne sais pas, certains le trouveront vicieux, peu le trouveront vertueux, mais enfin, c'est ce cercle-là qui a fait que les salaires des joueurs a augmenté de manière exponentielle, mais même depuis simplement 20 ans. C'est la télévision. Et puis, pas seulement que la télévision, d'ailleurs, c'est la téléphonie mobile, c'est l'ensemble des diffuseurs. Bon, et bien, à partir du moment, quand vous avez des... Vous savez que les audiences de cette Coupe du Monde avec les Françaises aujourd'hui, ce sont les meilleures audiences de l'année de TF1. Ben, à un moment donné... Croyez-moi, les choses
mais
Robert, finiront par en voir les retours.
Robert, on est en Coupe du Monde, bien organisée sûr, par la France.
À la maison, oui.
Voilà. Bien sûr. Peut-être, mais enfin, non, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on regarde autant les matchs des autres équipes. Moi, ça m'a étonné parce qu'au début, je me suis dit...
Autant, mais je suis surpris. Moi, sincèrement,
un peu moins, tu veux dire ?
Quoi, Michel et moi, parce que... On...
Charles, mais... hier, c'est pas autant. Évidemment
hier,
que c'est
formidable.
Pas autant. Angleterre-Norvège, 3 millions de téléspectateurs sur TF1.
C'est pas 10 millions.
2 et 3 millions, c'est
Angleterre-Norvège, c'est quand même dingue. Bon, 19h48, vous savez quoi ? On revient dans quelques instants pour un dernier tour de table avec les grandes voix, Charles Villeneuve, Robert Namias et Michel Cotta, avant de passer la main à Lionel Rosso et à cette formidable soirée. C'est d'abord l'avant-match et puis le match. 21h, France-États-Unis, quart de finale de Coupe du Monde. A tout de suite.
On vous retrouve Mathieu Bellière au café des deux stades aux abords du Parc des Princes et vous avez emmené avec vous les grandes voix d'Europe 1, Michel Cotta,
que...
Charles Villeneuve et Robert Namias.
Bien sûr, Ombline, que j'ai emmené les grandes voix avec moi. Michel Cotta, Charles Villeneuve, Robert Namias autour de la table. Ce match qui va démarrer dans 1h10 maintenant. Simplement parce qu'on parlait d'argent, on parlait des droits, on parlait des salaires. Là-dessus, sur ce point-là, là, les Américaines, elles jouent gros ce soir. Elles sont en conflit au pays avec la fédération.
Voilà. C'est un atout très important parce qu'elles ont lancé une véritable croisade contre leur fédération pour avoir une égalité de salaire par rapport aux hommes et une égalité d'équipement. Et donc si, à la fin de cette Coupe du Monde, et si elles brodent sur leur maillot une quatrième étoile, elles auront des arguments très forts pour obtenir ce qu'elles réclament à la fédération américaine.
Sûr. Si je vous suis, toutes les femmes ont intérêt à les voir gagner.
Non.
Pour l'égalité salariale pour tous.
Pas ce soir.
Pas ce soir. Non, non, on est quand même derrière les Bleus. Robert Namias, pour le coup, non, mais c'est vrai, c'est important ce que dit Charles. Il y a cette bagarre et il y a l'idée de revenir avec un titre, avec une étoile. Là, ce soir, j'aime bien l'image que vous avez utilisée, Charles, tout à l'heure. Il y a une vague. Il y a une vague, clairement, on le voit là. Il y a plein de supporters, il y a plein de monde, des hommes, des femmes, des supporters de l'équipe de France. Si on gagne ce soir contre la meilleure équipe au monde, demi-finale, finale derrière. Là, il y a la vague, il y a la déferlante derrière. C'est l'image qu'utilisait Charles tout à l'heure. Il peut se passer quelque chose ce soir.
Il peut se passer quelque chose, mais moi, j'ai remarqué, souvent, ça retombe quand même après. Pas seulement à cause des équipements, pas seulement parce que les équipements ne suivent pas, ce qui est le cas, je suppose, dans le football féminin et encore pas partout. Mais très souvent, vous avez une compétition, tout le monde y participe, tout le monde est ravi. Et puis, 6 mois plus tard, on voit bien que les adhésions au club, que les gens y vont moins. Et ça, c'est vrai, notamment.
C'est les gosses. Le
football, c'est les gosses.
C'est les enfants, surtout.
Ben, Damien, ça a commencé, me disait la patronne du foot féminin à la Fédération française, Frédéric Jocinet. Je lui disais là, au mois d'août, vous allez voir, là, ça va exploser. Non, non, ça a commencé, maintenant, là, déjà.
Absolument.
Les filles veulent s'inscrire et jouer au foot.
Absolument.
Et moi, je pense que ça ne retombera pas comme ça, parce que d'abord, ça part de très loin, si vous voulez. Et que la déferlante, évidemment, sera peut-être
mais
je pense
un peu ralentie.
Je ne pense pas que le résultat de ce soir, évidemment, si elle gagne la Coupe du Monde, il y aura vraiment une déferlante. Et surtout, une demande dans les clubs considérable. Et encore une fois, ça pose le problème de la capacité d'y répondre. Mais même si jamais, ce que Dieu plaise, elle ne passait pas ses quarts de finale ce soir, je pense qu'il y a quand même, autour même du football féminin, un discours, mais qu'on n'entendait pas il y a 6 mois. La Coupe du Monde en France, elle est prévue depuis quoi ? 4 ans ou plus, par définition. Bon, voilà. On a commencé à s'y intéresser vraiment et il y a quelques mois. Et honnêtement, ça ne retombera pas complètement parce que je pense d'abord que, même si on ne connaît pas vraiment leur nom, si on les voit moins à la télévision, les visages vont devenir plus familiers. Et elles ont quelque chose en plus d'extrêmement sympathique, ce que n'ont pas toujours les hommes, y compris dans les Coupes du Monde.
Justement, on s'aperçoit de ça, non, puisque nous sommes en plein milieu du public. Hein, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit beaucoup, effectivement, comme l'a dit Charles tout à l'heure, beaucoup de drapeaux américains, beaucoup de drapeaux français. tout ça dans un climat de bonne humeur absolument incroyable.
Alors, on
nous rebat les oreilles des batailles de supporters, de hooligans, etc.
Loin, là,
franchement, eh bien, moi, je suis plutôt fier de ça.
Moi, je suis plutôt fier de ça. En tout cas, ce qu'il y a d'important à un quart de finale, c'est que les deux équipes doivent avoir, ont besoin de joueuses capables de faire basculer un match. La France en a 3. Les Américains en ont 5 ou 6.
Et j'en parlais avec Sandrine Roux, il ne faudra pas rater. La moindre case, il ne faut pas rater ce soir.
Non, mais dès le départ, vous allez voir, c'est l'habitude des Américaines, immédiatement,
Pacte.
Ce sont tout de suite deux grands tirs tendus sur leurs ailiers afin de s'approcher tout de suite du but français dans le premier quart d'heure, de marquer pour jeter le doute dans l'esprit des Françaises. C'est ce à quoi les Françaises doivent résister. Tout à l'heure.
Michel Cotta, le mot
juste
de la
un
fin.
Mot, juste un mot pour les deux équipes, hein, quand même. Il fait 33 degrés, 34 degrés sur la pelouse. Donc, ayons quand même un petit geste de soutien.
Il y aura des pauses fraîcheur à la 30e et à la 75e.
Voilà, pour les deux équipes, alors, quand même, bravo.
Simplement 32 degrés au coup d'envoi, 26 degrés s'il y a une prolongation, ça va être chaud. En même temps, c'est un quart de finale de Coupe du Monde, les amis.
Vous savez que la Fédération Internationale, la FIFA, a prévu des pauses.
Des pauses fraîcheur à la 30e et à la
75e. De 1 minute qui peuvent aller jusqu'à 3 minutes selon la température, le degré.
Et pour les supporters et supportrices, ce soir, c'est l'équivalent de ce qu'on avait vu sur la Coupe du Monde au Brésil. Juste d'un mot, il nous reste 30 secondes. Un pronostic pour le match de ce soir, le score final, Charles Villeneuve.
Voilà.
Il faut s'engager.
Tu veux pas de pronostic?
Moi, je suis superstitieux.
Oui, moi aussi, je veux.
Et je m'engage pas.
Moi, je voudrais vous dire quelque chose quand même. C'est que, en tous les cas, moi, je suis pas un grand spécialiste, mais les quarts de finale ont toujours été l'occasion d'exploit pour des équipes de France masculines qui, jusque-là, y compris en 98 et même en 2018, n'avaient pas joué de manière extraordinaire. Et elles se sont révélées.
Les demi-finales aussi.
Évidemment, il faut aller jusqu'au bout. Mais le quart de finale a souvent été l'occasion du démarrage. Eh bien, ce sera peut-être le cas ce soir.
C'est la grâce qu'on leur souhaite.
En tout cas, il y a une arbitre
ukrainienne.
Moi, je n'ai pas un avis, si vous voulez, favorable pour cette arbitre, parce qu'elle a arbitré 2 matchs de la Coupe du Monde, et chaque fois sur 10, elle a été donnée à peine avec la moyenne, 6 ou 5. C'est une Ukrainienne.
On va voir ce que ça donne ce soir. C'est Madame Katerina Monzoul, 37 ans, qui arbitrera la rencontre. Coup d'envoi à 21h, merci mes chers grandes voix, Michel Cotta, Robert Namias et Charles Villeneuve. On entend juste Shani, qui était mon invité il y a une heure, la rappeuse, footballeuse, qui a écrit Sélection Féminine et qui veut devenir la nouvelle VG Dream. Et porter ce qu'est l'hymne des Bleus pour cette Coupe du Monde. Bonsoir Lionel Rousseau.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous.
Quelle belle soirée nous vivons ici, n'est-ce pas, au Parc des Princes. Vous êtes au studio Pierre Belmar, je crois.
Oui, absolument, mais il y a du public, des supporters et des supportrices également.
J'entends rien.
Ben oui, ils sont là, elles sont là. Vous les entendez, bien sûr.
Plus fort, les supporters.
Derrière l'équipe de France, de nombreux auditeurs et auditrices d'Europe 1 sont venus assister à cette rencontre avec nous. Ils vont pouvoir écouter, regarder le match et puis se délecter de nos grands débats pour vous accompagner donc jusqu'à 21h, le coup d'envoi. Et après, on est ensemble pour ce grand, grand match et peut-être le plus grand rendez-vous du foot féminin français. On est ensemble avec vous jusqu'au bout de la nuit. Peut-être s'il y a des prolongations et des tirs au but, on le souhaite.
Très belle soirée de football sur Europe 1 depuis 17h. On est en émission spéciale. Il est là, le studio Pierre Belmar. Parce que moi, j'ai plein d'Américains autour de moi. Donc, je suis content d'entendre les supporters des Bleus derrière vous. Belle soirée, Lionel Rousseau.
Merci, Mathieu Méliard. Bon
match. Week-end, Ombline.
Bon week-end et allez les Bleus. À tout de suite avec Isabelle Millet pour l'information sur Europe 1.
La Coupe du Monde féminine, l'événement foot est sur Europe 1.